de petits gestes anodins que l'on fait par habitude ou sans s'en rendre compte. Lui sait les capter, les repérer, les disséquer et les raconter comme nul autre pareil. Rencontre avec l'inventeur de l'instantané littéraire.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Philippe Delerme, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez explosé sur la scène littéraire en 1997 avec la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Aujourd'hui, vous publiez l'extase du selfie et autres gestes qui nous disent. Vous avez recensé près d'une cinquantaine de ces petits gestes du quotidien. Cela va de la façon de tourner le volant avec la paume de la main bien à plat, à la posture qu'on adopte dans une soirée quand on tient son verre sans le boire. On peut citer aussi l'art de faire les carreaux ou la manière de hocher la tête sans véritablement acquiescer. Qu'est-ce que ces gestes révèlent de nous, de notre société, de notre temps ?
La question est en fait assez large. Alors je pense que ça révèle beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que parmi tous ces gestes contemporains, la plupart sont contemporains, il y en a d'autres qui sont un peu de toutes les époques aussi. Mais j'ai souhaité choisir des gestes qui parfois sont un peu symboliques. Alors vous parliez à l'instant par exemple du geste que l'on fait quand on tient un verre à la main sans le boire. Moi je trouve que ça c'est un geste qui est presque philosophique aussi. Il y a une espèce de jubilation. Ça peut être le soir comme ça, tard chez soi, avec quelqu'un, plutôt un autre, dans un couple par exemple, ou tout seul, ou souvent aussi dans un cocktail par exemple, d'avoir à la main un verre et finalement la qualité du vin qu'il y a dans ce verre, peu importe. En fait, on sent une espèce de plaisir à avoir une conversation et à ne pas entamer le verre. Et finalement, c'est une espèce de pouvoir qui devient rare, quand on avance un peu dans la vie notamment, d'être maître du temps en fait quelque part, de pas entamer les choses. Alors ça, c'est, je pense, assez emblématique de ma démarche où... Je citerai par exemple un autre exemple à ce niveau-là, c'est le geste du pointeur à la pétanque. Par opposition au tireur qui est une espèce de vedette qui vient tout fracasser, le pointeur c'est quelqu'un qui se contente d'approcher, mais son geste est une façon d'abandonner la boule en la retenant et de lancer en retenant. Et je trouve que cette façon de lancer en retenant, ça peut être vrai de plein d'attitudes humaines. Par exemple, curieusement, ça peut être une métaphore du fait d'avoir des enfants. On les lance dans la vie et on les retient. Un petit peu comme le pointeur à la pétanque. Enfin, je pense qu'il y a comme ça dans nos gestes des choses que l'on peut fouiller. On peut le faire à propos des rapports qu'on a avec un smartphone, par exemple. Mais il y a comme ça des espèces de fondamentaux qui sont assez philosophiques, je dirais, que l'on peut trouver à travers l'émergence de petits gestes du quotidien.
Mais quand vous écrivez, vous vous sentez journaliste, sociologue ou bien simplement écrivain ?
Ben, je me sens écrivain. Je me sens écrivain et un écrivain qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à imposer ce genre-là, puisque mon parcours est quand même un peu, tous les parcours sont particuliers, mais le mien a été au début un peu douloureux en tant qu'écrivain, c'est-à-dire 10 ans d'envoi par la poste refusé, aucun livre.
Vous aviez écrit 13 livres, c'est ça, avant ?
Non, ça c'était avant même le début du premier de ces 13 livres.
Ah
donc il y a eu d'abord 10 ans d'envoi infructueux par la poste, et après à partir de 83... Mais j'avais déjà 33 ans, donc. Et j'envoyais depuis 10 ans des manuscrits par la poste. On a commencé à me publier aux éditions du Rocher, qui m'ont fait confiance pour... J'ai fait 13 livres avant la première gorgée de bière. Et donc, déjà à l'époque, j'avais envie d'écrire des textes courts. Mais on me disait toujours, mais non, on aimerait mieux quand même un roman, parce que, voilà, pour exister en littérature... Je trouve ça assez stupéfiant d'ailleurs. Il faut passer par les fourches codines du roman.
Oui, c'est... parce qu'en France, les nouvelles ne sont pas très prisées, contrairement aux États-Unis, par exemple.
Voilà. Alors, déjà, les nouvelles, on vous dit, déjà, c'est moins bien qu'un roman. Mais alors, des textes courts qui ne sont même pas des histoires, qui ne sont même pas des nouvelles, ça, c'était vraiment une marchandise, donc, qui était a priori invendable. Et c'était pourtant ça que j'avais envie de faire. Et j'ai mis très, très longtemps à l'imposer. Et ces 25 ans, m'ont été utiles, je pense, dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai peaufiné petit à petit une écriture, et je pense que ça semble être des sujets de chronique, effectivement, qui pourraient être presque plus des quotidiennes journalistiques, mais je pense qu'il y a à l'intérieur cette espèce de lenteur que j'ai mis aussi à trouver vraiment l'espèce de ténuité de l'aiguille qui permet d'attaquer le sujet, et donc je revendique comme un genre vraiment littéraire dont je m'étonne en fait d'être un des seuls représentants ou au niveau comme ça de l'observation de la société, en tout cas à travers ce genre de texte un peu seul, alors que moi je le recommande hein, aux gens qui ont envie d'écrire, parce que de même que je le recommandais aux élèves que j'avais quand j'étais prof en collège, c'est un genre qui est extrêmement jubilatoire de voir dans la vie, d'essayer de trouver un petit angle d'attaque un peu minimaliste pour essayer de percer la peau des autres et d'essayer de chercher des choses qui peuvent être un petit peu profondes aussi. Moi, je trouve que c'est très agréable à faire et peut-être à lire éventuellement.
Alors, vous avez choisi pour titre de votre livre L'extase du selfie. Qu'est-ce qui vous amuse ou qui vous agace dans cette mode du selfie ?
Alors, d'abord, le smartphone, je l'ai abordé de trois façons dans ce recueil. Et le premier de tous les textes de ce recueil, c'était cette espèce d'effleurement que l'on a avec le bout de l'index quand on fait surgir sur un smartphone. Pas sur le mien, qui est beaucoup trop rétrograde, mais sur celui des gens qui sont autour de moi, et notamment sur celui de ma compagne. Quand je vois la façon dont les gens font surgir des scènes.
Des photos.
Qu'ils ont vécues, des photos. Et cette façon de consulter, je crois que ça s'appelle un swipe, je crois, le fait comme ça d'effleurer comme ça du bout du doigt pour toucher à la mémoire. Je trouve que cet écran est comme une espèce de patinoire, c'est un côté un peu glacé. Les choses sont de l'autre côté du miroir. En même temps, elles surgissent, elles apparaissent. Et malgré tout, on reste pas 3 ou 4 minutes dessus. On fait passer de l'une à l'autre, on va vite de l'une à l'autre. Et c'est une façon de les faire naître et presque de les effacer en même temps qu'on les fait naître. C'est un autre rapport à la mémoire. Ça, par ailleurs, je trouve que c'est un geste assez élégant, assez joli à voir. Bon, je trouve aussi assez élégant, et j'ai écrit un texte là-dessus, sur la façon dont les gens parfois tiennent sur la paume de la main pour parler leur smartphone.
La tête penchée.
La tête penchée, et comme ils le tiennent presque comme un livre de messe parfois, comme s'ils s'adressent à l'autre, mais on a l'impression qu'ils s'adressent aussi à eux-mêmes. Et alors, dans le cas du selfie, là, c'est un geste que, pour le coup, je trouve qui est souvent devenu un peu ridicule. Par contre, il y a un petit peu de d'humour, je pense, de ma part, parce que le selfie, ce que j'appelle vraiment le selfie, c'est pas le selfie avec quelqu'un, ça. En fait, le fait d'être avec quelqu'un, bon, ok, on se prend en photo avec une célébrité ou quelqu'un avec qui on a envie d'être, c'est une chose. Devant un monument, pourquoi pas? Ah oui, tu vois, je suis à tel endroit, sur la place Saint-Marc, je t'envoie une photo, ok. Après, le vrai selfie, c'est se prendre tout seul. Et je trouve que c'est quand même une chose qui est très emblématique de notre époque. Qui est-ce qu'on désire? Qui est-ce qu'on admire? Soi-même. C'est quand même une société qui est presque devenue un peu autosexuelle. C'est en fait l'objet du désir, c'est soi, de même qu'on peut aussi jouer tout seul, qu'on peut mener une vie complètement isolée. Et le selfie, en plus, c'est assez rigolo, parce que c'est une chose paradoxale. On est obligé de s'éloigner, en fait, pour se rapprocher au maximum. On s'intéresse qu'à soi-même, mais on est obligé de prendre une espèce de recul physique pour se rapprocher. Voilà.
On va continuer tout à l'heure à parler de vos instantanés littéraires. Philippe Delerme, je vous propose maintenant de retrouver, comme tous les lundis, la chronique ailleurs. Et nous partons pour la Hongrie. Antoine Préto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission coopération juridique et gouvernance à l'Institut français de Budapest. Vous avez lancé en juin la 4e édition du concours de plaidoirie francophone. La finale aura lieu le 22 novembre à l'Université de Budapest. Comment va-t-elle se dérouler ?
Alors écoutez, ce concours se déroule en 2 phases. La première phase est une phase écrite où les étudiants doivent nous envoyer un mémoire sur un cas fictif relatif aux droits de l'homme. Sur la base de ce mémoire, nous sélectionnons 16 étudiants qui viendront à Budapest pour la phase finale, qui se déroule en 2 temps. Une première partie, la matinée, où il y aura les demi-finales, où ils plaideront sur ce cas fictif devant un jury composé principalement de magistrats et d'avocats. Et la finale se déroulera sur un sujet de plaidoirie, plutôt d'éloquence cette fois-ci. Et ils seront sélectionnés par ce jury. Il y aura 3 lauréats de chaque catégorie, étudiants français et étudiants d'Europe centrale, qui seront sélectionnés.
Alors vous dites sélectionnés ou récompensés ?
Ils seront sélectionnés et ensuite classés par le jury. Et ils recevront des prix, notamment des stages dans des cabinets d'avocats parisiens, ou à Budapest.
Alors, quel est le profil des candidats qui vous ont adressé ce mémoire ?
Alors, il s'agit tous d'étudiants en droit. Il y a des étudiants en droit qui viennent d'universités en France, et il y a également des étudiants en droit qui viennent d'universités d'Europe centrale et orientale. Alors, ça va de la Slovénie à la Moldavie et l'Arménie.
Est-ce que la finale va se dérouler en public ?
Oui, la finale est ouverte au public. En général, nous avons quelques étudiants, notamment, qui viennent regarder la finale et les jeunes plaider.
Et quel sera le thème spécifique ? Vous avez parlé tout à l'heure de droits de l'homme, mais c'est un peu large. Est-ce que vous avez demandé aux étudiants de plancher sur un cas fictif lié à une thématique en particulier ?
Oui, tout à fait. En fait, le sujet général du concours, ce sont les droits de l'homme. Mais chaque année, nous avons un thème bien défini. Alors, les années précédentes, nous avons pu avoir le thème des violences faites aux femmes, le thème de la liberté d'expression ou le thème du droit à la protection de l'environnement. Et cette année, nous avons choisi le thème du numérique et parler des enjeux des droits de l'homme dans le domaine numérique.
Et donc, pour la plaidoirie finale, chaque étudiant aura droit à combien de temps de parole ?
En moyenne, c'est une plaidoirie de 10 minutes. Et à la suite de ça, ils ont un droit de réponse de leur contradicteur de 2 minutes à 3 minutes.
Merci beaucoup Antoine Préteau, chargé de mission coopération juridique et gouvernance à l'Institut français de Budapest. La finale du concours de plaidoirie francophone, ce sera donc le 22 novembre à l'Université de Budapest. Bonne journée.
Bonne journée.
Et passant sur son chemin, soulève leur galure, le chien lui lâche les mains, sa présence rassure, voyez cet enfant qui beugle, par lui secouru, et comme il aide l'aveugle, à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin, quand il est morose, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard, allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai, sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons, aux petites heures nous rentrons à la maison, je suis son chauffeur, la 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 la, la 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 la.
Monsieur Thomas Fersen dans De Vive Voix sur RFI. Philippe Delerme, c'est vous qui avez choisi cette chanson, pourquoi ?
Parce que je trouve qu'elle est vraiment très très drôle, ce monsieur qui a l'estime de tout son quartier, qui est en fait un assassin. Et puis il y a une écriture, comme toujours chez Thomas Fersen, qui est sensationnelle. Il étrangle son semblable dans le bois de Meudon quand il est inconsolable, quand il a le bourdon. C'est vraiment superbement dit. Et ce qui est assez fort, c'est que c'est une chanson qui est faite de vers impairs, des vers de 7 pieds, heptamètres, et puis des vers de 5 pieds. Et comme disait Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. C'est vrai, c'est extrêmement, au niveau de la forme, très ciselé, et ça dit un truc complètement burlesque et frappadingue, et en même temps sous une forme très élaborée. Moi, ça me plaît beaucoup.
Alors, on va continuer à parler de votre livre, L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Parmi ces gestes qui nous disent, il y a les rituels d'appartenance, comme dans le chapitre intitulé « Comme un sésame minuscule ». Vous écrivez « Quoique mené 5-0, on évite l'infamie, et ce grâce à un geste que tous les joueurs de tennis connaissent, un geste qui paraît naturel, mais qui ne l'a pas toujours été ».
Oui, le fait de pouvoir remonter la balle avec sa raquette, en appuyant la raquette contre sa chaussure, et c'est vrai que ça fait partie du du fait d'être un familier du tennis, et pour le coup, une fois qu'on sait faire ce geste-là, alors ce qui est rigolo, c'est la façon dont on fait semblant de le faire naturellement. Au début, il y a rien de naturel là-dedans, c'est pas si facile que ça les premières fois où on le fait. Et puis après, c'est vrai que c'est beaucoup plus commode que de se baisser. Et dans le geste, c'est vrai que il y a toujours une espèce d'humiliation à se baisser. Et je trouve que, par exemple, j'ai évoqué le fait de faire les carreaux. Qui est un geste qui est pas du tout humiliant dans les gestes de ménage, parce que c'est beaucoup moins humiliant que de ramasser la poussière, faire les carreaux, c'est déjà une célébration avec les bras en l'air. Pour le tennis, c'est vraiment un code, quoi. On n'est pas vraiment un joueur de tennis si on sait pas ramasser la balle comme ça. Après, ça suffit pas à gagner les matchs, c'est sûr.
Alors, il existe également des gestes ancestraux. Est-ce que vous pouvez nous lire la pavane des drapliers?
Avec plaisir. J'aime bien ce texte. La pavane des drapliers. Tu peux m'aider à plier des draps ? Plier des draps. Il y a quelque chose de spécial dans ces trois mots. Une sérénité. Quand les draps sont pliés, on les range dans l'armoire. On met de la fraîcheur à l'abri dans le sombre, du propre en secret dans l'oubli. Mais avant, il faut cette danse. On s'écarte, on se fait face, comme pour une pavane. Qu'importe si on n'en a jamais dansé. On ressent dans tout son corps la chorégraphie ancestrale de ce pliage, de ce muet dialogue. La juste distance est un défi à trouver pas à pas. On ne dit pas « recule encore un peu », on le suggère d'un hochement de tête. Les deux bras levés, on se sent à la fois manant dans un village et noblio de cour. Le protocole est courtois, mais énergique. Le mouvement pour tendre le tissu le fait claquer comme un drapeau. Il y a toujours comme une nuance de reproche dans le premier ajustement, un petit soubresaut du poignet qui réprouve toute mollesse. Après, le rythme vient, puis l'harmonie, quand on commence à plier en quatre, en huit. Enfin, l'étoffe se fait étroite et lisse. On peut se regarder, on va se rapprocher, mais pas en même temps. L'un des deux doit faire les premiers pas, mais on n'hésite pas. Après le premier salut plutôt rude, un accord est venu, une aisance, une souplesse partagée. On sait quel est celui qui doit attendre, quel est celui qui doit venir. C'est de la danse et davantage.
Philippe Delerme, vous racontiez dans la première gorgée de bière l'écossage des petits pois, le paquet de gâteaux du dimanche, qu'on s'empresse de tenir par la ficelle dès qu'on sort de la pâtisserie. La fierté pour un garçon d'avoir un couteau dans la poche, même s'il ne s'en sert jamais. Aujourd'hui, on vient de vous écouter le lire. Vous décrivez le cérémonial, la danse du pliage des draps. Est-ce que ce sont pour vous des madeleines de Proust ?
Ce sont des madeleines, et ce sont des madeleines qui sont réellement des madeleines, puisque le principe de la madeleine, c'est de réveiller de la mémoire avec des choses que l'on fait relativement souvent, mais pas si souvent que ça. Et c'est vrai que plier des draps, c'est une chose que je fais encore de temps en temps, mais pas si souvent. En tout cas, c'est suffisamment peu souvent pour que ça me rappelle des choses. Et ça se passe toujours de la même façon que je plie des draps aujourd'hui avec ma compagne Martine. C'est comme quand j'aidais ma mère à plier des draps quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y a toujours une espèce de rapport énergique comme ça. C'est voilà, on fait une chose qui est domestique, mais en même temps il y a une espèce d'énergie, on fait claquer toujours un petit peu les draps comme ça, on s'éloigne. Alors après, quand c'est avec une compagne par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, je trouve que c'est aussi une métaphore aussi de l'amour, cette façon aussi qu'il y a à sentir qu'il y en a un qui doit s'avancer un moment et pas l'autre, et que on le devine de façon intuitive. C'est comme quand on se désire sans avoir à le dire, en fait.
Donc on peut vérifier si on est sur la même longueur d'onde.
Oui, tout à fait, je trouve.
Vous êtes nostalgique de votre enfance, du temps qui passe ?
Alors, nostalgique, c'est pas exactement le mot, parce que moi, je pense que je suis resté enfant. La chose la plus... Bon, il y a des gens qui ont envie d'être sympathiques avec moi, d'autres moins. Mais quand on a envie d'être sympathique avec moi, on dit ce qu'a dit un jour un chroniqueur sur France Inter. Je me souviens très très bien de ça, parce que ça m'avait touché, parce que je trouvais ça juste quand on veut être sympathique. Il avait dit « Nous avons tous été baignés dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delerme, lui, il est resté mouillé. » Et c'était joli, je trouve.
Ouais, très joli.
Et en fait, c'est un peu ça que je ressens. Et c'est que j'ai l'impression que je peux pas être vraiment nostalgique, parce que mon enfance, elle est là, quoi. Et avec le temps qui passe, je me rends compte qu'il y a une espèce de pouvoir aussi de vivre, je dirais, un peu en relief le monde, d'avoir en soi les choses du passé aussi, et notamment quand, comme moi, on a du temps aussi pour en rêver un petit peu la vie. Et je pense que ça, c'est un pouvoir qui va alors complètement à l'encontre d'une chose qui m'exaspère, c'est ce qu'on appelle la mode du feel good, c'est-à-dire toute cette mode de zénitude, de transparence, comme ça.
Donc si on vous qualifiait de feel good écrivain, ça ne vous plairait pas du tout?
Ah ça, je déteste ça, je suis tout le contraire d'abord dans la vie. Humainement parlant, je suis quelqu'un d'inquiet, d'anxieux, forcément inquiet. À partir du moment où on a la chance d'aimer des gens, on est forcément inquiet pour eux. Si on n'est pas inquiet pour eux, c'est qu'on ne les aime pas vraiment. Et en tout cas, j'ai aucune envie de pratiquer l'ataraxie, l'absence de trouble. Moi, j'ai aucune envie, c'est de continuer à être troublé partout, de continuer à être inquiet.
Mais c'est pour ça que vous dites que quand on vous décrit comme l'écrivain du bonheur, vous pensez qu'il y a un malentendu?
Oui, il y a un malentendu fondamental, ou plutôt, il n'y a pas de malentendu, c'est que c'est vrai que le bonheur est quelque chose de capital dans mon territoire d'écriture, sauf que le bonheur, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas une espèce d'extase permanente, et c'est au contraire une inquiétude permanente. J'ai écrit assez tôt dans ma vie un livre qui s'appelle Le bonheur, tableaux et bavardages, dans lequel j'ai dit le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Et parfois, il y a des gens qui se sont un peu interrogés sur cette phrase. Ben, c'est une définition qui semble très négative du bonheur, avoir quelqu'un à perdre. Mais pour moi, non, pas du tout. Parce qu'avoir quelqu'un à perdre, c'est ça le vrai privilège de la vie. C'est de rencontrer quelqu'un qui fait qu'on pourrait avoir à le perdre.
Mais vous comprenez que les gens qui vous lisent, eh bien, ça leur fait du bien de vous lire.
Ça, c'est pas antinomique. Il est possible que ça leur fasse du bien. Il est possible aussi que se dégage de ce que j'ai fait une espèce de sérénité ou de conquête, en tout cas, du temps, en fait, puisque c'est ça l'enjeu. Mais cette conquête du temps, moi, je ne l'ai pas du tout pour moi dans ma vie, en fait.
Est-ce que vous vous baladez avec en permanence un carnet dans la poche pour noter ou dessiner ce que vous remarquez ou...
Alors là, pas du tout. Et je pense que ça serait complètement opposé, justement, au sérieux, je dirais, de ma démarche, puisque étant donné que je veux être dans la vie et que mon territoire, ça soit la vie que j'ai, si j'étais un éternel chasseur en train de traquer la petite phrase ou le tableau que je veux peindre, je pense que je serais pas du tout naturel, je serais toujours un petit peu quelqu'un qui essaye de profiter comme ça de la vie pour en extraire des sujets. Or, ces sujets, ils me viennent avec un vrai décalage longtemps après et que j'ai vécu les choses. Je vis les choses, mais alors là, on peut me fouiller, j'ai pas de carnet sur moi.
Mais ça veut dire que vous avez une mémoire photographique, vous pensez?
Oui, mais une mémoire que j'essaie d'être un peu sensorielle aussi. Photographique sûrement, parce que j'aime bien partir d'images. Quand j'ai écrit des romans, je suis souvent parti d'univers picturaux. J'ai écrit par exemple, un texte sur Hammershøi, j'ai écrit des romans sur des peintres scandinaves, Karl Larsson, Søren Krøyer, où j'ai écrit un roman sur les peintres pré-raphaélites. J'aime bien partir des images ou des photos.
Et vous avez dit, plus on regarde une petite chose, plus on peut l'approfondir. Donc, vous zoomez sur les petites choses.
Oui, le jeu, c'est de trouver un angle d'attaque le plus aigu possible. Je trouve que l'aiguille... rentre dans la chair de l'autre si l'aiguille est très très fine et elle s'enfonce d'autant plus que l'angle d'attaque est très minimal. Je pense que si quelqu'un au monument aux morts le 11 novembre fait un discours en disant il y a eu 1,5 million de morts à la guerre, il va pas susciter une grande émotion. Mais s'il commence à évoquer quelqu'un en l'appelant par son prénom et en disant ce matin-là, il a bu un chocolat, je sais pas, aussitôt, il va engendrer une espèce de chair de poule qui vient du fait qu'on peut partager une émotion quand elle est suffisamment singulière, suffisamment aiguë, mais quand elle est globale, ça fait rien du tout.
Donc c'est ça le challenge, c'est comment en une page et demie, deux pages maximum, savoir trouver les mots qui pourront susciter l'image, le parfum, l'odeur, les sensations, les émotions.
Oui, et c'est vrai que pour le coup, alors c'est ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que souvent on a taxé cette démarche d'art modeste. Moi, je trouve pas ça du tout modeste. Je trouve au contraire, c'est d'une certaine façon essayer d'épuiser le sujet en deux pages. Et donc, et je trouve que c'est au contraire pas prétentieux, mais assez ambitieux finalement.
Est-ce qu'il y a un ou des auteurs ou un réalisateur qui vous ont influencé?
Oh bah, des auteurs, il y en a un qui m'a influencé plus que tout, c'est Marcel Proust, parce que voilà, disons que moi, quand j'étais étudiant à la fac, à l'époque où je lisais justement, où je plongeais dans L'Archer du Temps Perdu, j'avais aussi des profs qui me disaient que c'était aussi un roman, L'Archer du Temps Perdu. Moi, j'ai jamais été trop d'accord avec ça. Je trouve que c'est presque une succession de textes courts, justement, L'Archer du Temps Perdu. Et en tout cas, il y a cette façon de penser paradoxale qui, moi, me plaît beaucoup. Dès que vous commencez La Recherche du Temps Perdu, vous tombez, ça doit être la quatrième ou cinquième phrase du livre, le désir de trouver le sommeil me réveillait. Et ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah mais oui, c'est tellement vrai. En même temps, c'est tellement étrange de trouver ça dans un livre. Ça paraît pas quelque chose qu'on doit trouver dans un livre. Et précisément, ce qui m'intéresse, c'est de transformer en sujet ce qui n'en est pas un a priori.
On va écouter quelqu'un que vous aimez, je crois, beaucoup, un réalisateur, Jacques Tati.
J'étais pas un très bon élève. Mais si vous voulez, les bons élèves voyaient le professeur de face, donc ils le voyaient avec son faux col. À l'époque, le professeur avait un faux col et une cravate, et ils ne voyaient que le côté face du professeur. On était assez souvent au coin, du coin qui était derrière la chaire du professeur. J'apercevais qu'il avait des chaussettes qui lui tombaient un peu sur les chevilles, et qu'en plus il grattait souvent. Donc j'ai commencé à me rendre compte très petit de l'importance de l'arrière d'un décor comme de l'importance d'une cuisine dans un restaurant. Il n'y a pas que la façade qui compte, il faut savoir également comment le beefsteak est cuit.
Jacques Tati, extrait des archives de l'INA dans l'émission d'Alain Ferrari, grand écran sur RFI. C'est drôle, Philippe Delerme, parce que Jacques Tati parle des chaussettes de l'instituteur et vous, dans votre livre, vous évoquez les chaussettes de l'homme de pouvoir avec un geste pas forcément très élégant.
Ça me fait rigoler parce que j'adore Jacques Tati, effectivement, et je savais pas qu'il avait parlé du grattement sous la chaussette. C'est vrai que c'est un geste qui m'a interpellé il y a pas si longtemps d'ailleurs, dans un déplacement en Thalys, pour rien vous cacher, en allant à Bruxelles. Et c'est vrai que dans le Thalys, souvent il y a des hommes de pouvoir notamment, et c'est cette façon qu'ont certains hommes, moi j'ai jamais vu des femmes faire ça, alors parce que d'abord c'est vrai qu'avoir des chaussettes c'est plus quand même globalement un truc d'homme, et c'est en général des hommes qui ont un certain type de costume, et ils s'installent comme je le fais en ce moment, mettant une jambe par-dessus l'autre, dans un genre un peu décontracté, puis dans un genre un peu aussi je vais vous tenir un discours, voilà, donc assez abondant, et très très souvent ils mettent la main comme je fais là, c'est pas très radiophonique, mais donc ils mettent
donc
la main sur la cheville,
votre cheville, voilà.
Et puis après, au bout d'un moment, et ben ils soulèvent un peu le bas de leur pantalon et ils mettent l'index sous leur chaussette, et là ce qui est curieux, il y a une envie de se gratter, comme disait Jacques Tati, qui vient, et ça les démange assez vite, parce que dès qu'on commence à se gratter, ça vous démange, et c'est rigolo parce que c'est dans un moment où c'est dans un discours souvent très autosatisfait. Il y a peut-être une secrétaire à séduire, enfin quelqu'un à convaincre dans leur entourage, et ils se mettent à se gratter de plus en plus. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que quand ils parlent, ils se grattent, et quand l'autre a un petit peu de temps pour faire une petite réponse, ils arrêtent de se gratter. Mais comme s'il y avait une démangeaison, d'une espèce d'autosatisfaction à parler de soi et de se vanter un peu, ou en tout cas de se donner un rôle quand même assez satisfaisant. Et en même temps, quelque part, c'est une espèce d'eczéma curieux. Pourquoi est-ce que ça irrite en même temps que ça satisfait ? Enfin, ouais, ça m'intéresse.
Est-ce que vous êtes fier qu'on vous reconnaisse à votre style ? Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un petit peu tout seul avec ce style, mais c'est bien justement, c'est votre spécificité.
Oui, je suis éventuellement fier de ça. C'est vrai aussi que dans les articles, notamment de la presse, la notion de style est quand même relativement peu évoquée, et c'est dommage. Mais pour moi, oui, il y a des écrivains, il y a des romanciers. Je vous parlais tout à l'heure de la difficulté à être écrivain quand on n'est pas romancier. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains, quelqu'un comme Colette par exemple, que tout le monde reconnaît aujourd'hui, et pas vraiment une romancière. Ses romans sont devenus souvent désuets, alors que ses textes courts, enfin en tout cas ses recueils de textes comme Sido et les Maisons de Claudine, sont d'une merveilleuse modernité. Et il y a des tempéraments comme ça d'écrivains, et dans ce cas-là, éventuellement, on peut reconnaître, je pense, un écrivain en lisant à peine une demi-page ou une page, mais c'est ça en tout cas le but, oui, bien sûr.
Merci infiniment Philippe Delerme d'avoir été notre invité.
Merci.
L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci à Guillaume Ploquin qui a réalisé cette émission, et à Véronique Durand et Marion Lestel qui m'ont aidé à la préparer. À demain et portez-vous bien.